Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, étude biblique sur le livre de l'Apocalypse, 20e partie, le millénium.
Notre Bible, dans le livre de l'Apocalypse, on va prendre la suite de ce que nous avions commencé depuis des mois et des mois, et on approche de la conclusion. Alors, ouvrez donc votre Bible, donc Apocalypse chapitre 20, et nous allons faire comme à l'habitude, un commentaire sur les versets qui nous sont présentés ce soir. Apocalypse chapitre 20. Ce chapitre s'ouvre sur trois événements. Le premier, c'est Satan est lié. Il est pris et il est lié. Et ensuite, il est délié. C'est ce qui nous est présenté. Ensuite, nous avons donc au cœur même de ce chapitre ce que l'on appelle les 1000 ans, ou dit autrement, le millénium, et puis le jugement dernier. Donc voilà, les trois événements de ce chapitre, Satan lié puis délié, les 1000 ans et le jugement dernier. Alors on va commencer à partir du verset premier jusqu'au verset 3, et je lis ceci. « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. » Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. À la défaite sans précédent de cette dernière guerre que l'on appelle Armageddon, on a constaté et on a lu que le faux prophète et la bête ont été jetés dans les temps de feu. Ce sont les alliés du diable. On avait parlé il y a quelques mois de la trinité diabolique. Donc, après Armageddon, je le rappelle, le faux prophète et la bête sont jetés dans les temps de feu. Et le diable reste seul. Il est privé de ses alliés qu'il avait séduits au préalable, qu'il avait entraînés, et il a perdu tout pouvoir. Et il est réduit à l'impuissance complète, sachant que sa force, la force qu'il a eue à travers toute l'histoire de l'humanité, toute l'histoire qui nous est rapportée dans la Bible, son pouvoir, est anéanti à ce moment-là. Et on sait que le pouvoir du diable, ici-bas, n'était fait uniquement que de la faiblesse et du péché des hommes. S'il n'y avait pas eu le péché, le diable n'aurait pu rien faire. S'il n'y avait pas eu la faiblesse des hommes, le diable aurait été inopérant. Il ne pouvait pas agir. Puisque on connaît l'histoire de ce qui nous est rapporté dans le livre de la Genèse, c'est l'homme qui a donné le pouvoir au diable de le mener, et l'homme a fait allégeance à tout ce monde des ténèbres et à son chef, donc le diable. Nous avons lu il y a un instant qu'il suffit simplement, à un ange de s'emparer de l'adversaire, c'est-à-dire de Satan, de le lier, il nous est parlé d'une grande chaîne, de l'emprisonner, il y a un lieu qui s'appelle l'abîme. Il y a en effet une porte avec une clé, puisqu'il nous est parlé de tout cela. Elle est fermée, c'est scellé, pour que cette arrestation mette un terme aux agissements de l'ennemi et mette cet ennemi tout simplement hors d'état de nuire, en d'autres termes, de l'empêcher de séduire les nations. Puisque ça a toujours été son travail à travers tous les anges, tous les âges, tous les temps. Séduire les nations, et ainsi de ne plus pouvoir exercer son œuvre de tentation. Puisque il y a d'abord ce mécanisme de tentation. On voit tous les grands hommes de la Bible, eh bien, ont été tentés, hein, d'une manière ou d'une autre. Jésus a été tenté aussi. Alors, on comprend que là, maintenant, eh bien, c'est terminé. Car on s'aperçoit que dans l'énumération de ces noms que nous avons eus devant les yeux il y a un instant, que nous avons lus, eh bien, dans cette énumération de ces noms, nous voyons qu'il est question de sa méchanceté. Quand il est parlé du dragon, c'est une monstruosité. Quand il est nommé le serpent, il est parlé de sa perfidie et de sa ruse. Quand il est nommé le diable, c'est le calomniateur. Et quand il est appelé Satan, c'est l'adversaire. Donc ça nous a été rappelé tout ça, pour bien montrer que c'est bien lui. Qu'il a entraîné les peuples, les nations, qu'il a entraîné les hommes, et qu'il a constitué un système, comme nous l'avions lu déjà auparavant, qu'on appelle la bête, avec une fausse religion qui est animée par un faux prophète, le faux prophète, et nous voyons que il va être lié, comme nous l'avons souligné, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est-à-dire pendant une période de 1000 ans que l'on appelle tout simplement le millénium. Pour Satan, il est neutralisé pendant ces 1000 ans, il ne peut plus rien faire. Il est lié, il est enfermé, il est captif, il n'y a rien à faire. Pour l'humanité maintenant, on va voir que les choses vont changer. Et ça nous est bien présenté pour montrer que si le diable n'était pas là, eh bien, le visage du monde serait tout autre. Et là, dans le millénium, il ne va plus être là. Il n'y aura plus le système inique que l'on appelle la bête. Il n'y aura plus le faux prophète avec toutes ces doctrines de séduction et tout ce que vous voulez pour, eh bien, là, aveugler les hommes. Et nous voyons que pour l'humanité, la différence est tout à fait manifeste. Parce que ça sera à ce moment-là une dispensation de liberté, de prospérité, de bonheur terrestre, mais pour une seule raison. Parce que celui qui est l'auteur de la tentation et de la séduction, eh bien, ne peut plus agir. Tout simplement. On va passer par le détail, justement, ce que comporte, eh bien, le millénium. Je continue avec un autre verset. Et je vis des trônes, ces gens qui disent cela, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Nous assistons au préliminaire, ou tout simplement à l'établissement du jugement. On en parlera une autre fois du jugement dernier, parce que c'est à la fin de ce chapitre, et on n'aura certainement pas le temps de l'aborder ce soir. Mais il nous est dit qu'il y a des trônes et des juges. Un peu plus loin, pour poursuivre, il nous est dit que les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Alors on va essayer d'éclaircir un peu les choses, les protagonistes. Il y a d'abord, dans ce jugement, non pas pour être jugés, mais pour juger par eux-mêmes, juger eux-mêmes, les martyrs de la cause de l'Évangile, avec Christ, pour juger. Ensuite, il y a les fidèles qui ont refusé de se souiller en portant la marque de la bête et puis tout ce que nous avons lu tout à l'heure. Et il nous est dit que pour cela, la première résurrection leur est réservée. Ça, c'est la part des enfants de Dieu. Il ne faut pas confondre. Je le rappelle encore une fois, s'il est nécessaire de le dire, le croyant, l'homme, la femme qui a accepté Jésus comme son sauveur personnel, qui est recouvert du sang expiatoire de Jésus, eh bien, connaîtra cette première résurrection. C'est-à-dire que nous sommes sauvés. On est bien d'accord. Je le rappelle à dessein, quand Paul nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, on est au fait de la situation. Il n'y a rien à craindre. Même si tout l'environnement que nous avons déjà abordé dans l'Apocalypse et que nous allons voir encore quand il va être question du jugement dernier, ça ne nous concerne pas. Nous, notre position, elle est tout autre. Et vous verrez dans quelle dimension nous sommes à ce moment-là. Alors, je continue. C'est la première résurrection et c'est réservé aux enfants de Dieu. Et leur position, et ça c'est important de le souligner, notre position alors sera de régner avec Christ durant 1000 ans. Je voudrais quand même vous dire et préciser, j'y reviendrai, pendant les 1000 ans, il y aura des peuples, il y aura des nations, il y aura des hommes. L'humanité n'est pas encore terminée. Quand on arrivera au chapitre 21, le suivant, là, à ce moment-là, il y aura une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Mais pour l'instant, l'humanité, malgré finalement la dévastation de la bataille d'Armageddon et puis de tout ce qui s'opposera à Israël et puis aussi au christianisme, mais il y aura encore des peuples sur la terre. En tous les cas, notre position, nous, sera avec Christ et notre rôle sera de régner avec lui. C'est le temps de rafraîchissement, si vous en souvenez, qui était déjà promis par les évangélistes dans le livre des Actes des Apôtres, et je tiens à lire le passage, parce que c'est quelque chose d'important. Souvenez-vous, dans le livre des Apôtres, des Actes des Apôtres, au chapitre 3, et au verset 20, il est dit ceci, « Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui est destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. » Temps de rafraîchissement. Le millénium constituera un temps de rafraîchissement, une promesse, et qui sera, pour les croyants, eh bien, une élévation en dignité. C'est le fameux sabbat annoncé dans Matthieu chapitre 19, et là encore, on peut tourner cette page, ou atteindre en tous les cas cette page, quand il nous est dit ceci, chapitre 19, verset 28, c'est Jésus qui répond à une question de Pierre. « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, les chrétiens de tous les temps, vous serez de même assis sur 12 trônes, naturellement en ce qui concerne Israël, mais sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de moi son père, son mère, etc., eh bien, il aura en héritage la vie éternelle, etc. » Voilà. Donc, les choses sont déjà un peu mises en place. Pourquoi 1000 ans? La question est la suivante. Pourquoi 1000 ans? Tout d'abord, c'est un chiffre symbolique désignant l'épreuve suprême où, à nouveau, les hommes seront testés une dernière fois dans l'idéal du bonheur terrestre, et cette fois, sans le tentateur, puisque nous l'avons dit, il est lié. Comment l'humanité va-t-elle se comporter en l'absence du malin, en l'absence du diable, en l'absence, finalement, eh bien, du mal? Comment vont-ils se comporter? Dieu va donner une période de 1000 ans. Comment l'humanité va-t-elle réagir? Alors qu'elle a le choix, hein. Elle ne sera plus tentée, elle ne sera plus séduite. Quand elle voudra faire le bien, et elle le fera, on verra tout à l'heure, elle pourra le faire naturellement. Et ça sera quelque chose d'aisé et de facile. Quant au mal, eh bien, ça sera vraiment une détermination, on pourrait dire, à main levée. On en reparlera tout à l'heure. On verra ça. Donc, ça sera à ce moment-là, pendant 1000 ans, un choix volontaire du bien ou du mal et sans contrainte. Aujourd'hui, nous sommes sous la pression de la tentation. Nous sommes sous la pression de toutes sortes d'aspirations instinctives, parce que c'est notre nature. Les hommes resteront pécheurs dans le millénium. Mais je veux dire que quand on voudra pécher, c'est qu'on le voudra bien. Hein. Et on pourra dire, là, personne ne nous aura poussé, ni les uns ni les autres, et dans les lieux célestes, il n'y aura plus le diable. Enfin, il n'y aura plus le diable pour pousser les hommes à faire le mal, sans contrainte. Qui, à ce moment-là, au terme des 1000 ans, révélera la nature du cœur de chacun. Et le verset 5 nous dit ceci, les autres, ils régneront, d'abord au verset 4, ils régneront avec Christ pendant 1000 ans, les autres morts ne reverront point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est ce que nous avons déjà vu dans le chapitre 19 précédemment. Tous ceux qui avaient suivi la bête, qui avaient suivi le faux prophète, à travers la bataille épouvantable d'Armageddon, les rois, les chefs militaires et leur armée, eh bien, qu'est-ce qu'ils sont, ces autres? Ce sont les réprouvés. ce sont ceux qui, ouvertement, ont pris fait et cause contre Dieu et pour le diable, pour le mal, et ces réprouvés sont là à demeurer dans l'attente du jugement dernier, appelé la seconde mort. Voilà. La première mort concerne le corps, la seconde mort concerne l'âme des âmes. Je voudrais faire une remarque au passage. J'insiste. Mais si le croyant est en Christ, il ne verra pas la seconde mort, puisqu'il est sauvé. Selon ce que nous dit le verset 6, « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. » C'est la nôtre, c'est notre part, c'est notre destination. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, car ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ce qui veut dire que nous avons là une béatitude. On avait étudié les béatitudes dans les évangiles. Mais là, nous les avons, il y en a 7 dans le livre de l'Apocalypse. C'est un livre d'espoir. Et vous avez remarqué, c'est une béatitude de réconfort éternel dans la félicité du règne de Christ. Ça, c'est notre part. Alors, c'est très difficile à expliquer les choses. J'ai beaucoup de difficultés à trouver les mots, assurément. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous devons nous tenir sur ce que Dieu nous déclare et que nous croyons comme véritable vérité. Alors, ça, c'est le règne de Christ pendant 1000 ans. La fin du verset 6, je l'ai lu, il nous est dit que nous serons sacrificateurs et nous serons rois avec Christ. Nous régnerons. Parce que régner, c'est, ça a tout de suite naturellement une connotation de royaume et de roi, naturellement, régner. Ça sera la pleine réalisation de ce qui nous est dit dans Apocalypse et que nous avions vu déjà il y a pas mal de temps, où au chapitre 1er et au verset 6, il est dit ceci, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Alors nous servons déjà le Seigneur, mais de l'autre côté nous le servirons, eh bien dans une autre dimension et dont nous ne pouvons certainement pas nous imaginer. Nous sommes déjà au service de Dieu, mais qu'est-ce que sera de l'autre côté? Et c'est pourquoi il est bien ponctué, heureux serez-vous, heureux et saint, parce que ça sera le royaume de la sainteté. Les sauvés seront élevés en dignité royale et ils serviront Dieu. Cependant, lorsque nous arrivons un petit peu plus loin, nous allons voir que il y a là une ombre au tableau qui se profile à la fin de ces 1000 ans, de ce millénium, et le verset 7 nous dit, et c'est assez étonnant, « Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. » Alors on pourrait se poser la question, mais pourquoi? Alors il y a tout un plan derrière, et je vais tâcher de vous l'expliquer. Pourquoi Dieu le relâche-t-il? Déjà, ses acolytes, la bête, le faux prophète sont déjà dans les temps de feu. Bon, on pourrait dire que c'est déjà l'enfer, hein. Lui, il est mis pendant un temps particulier de côté, il ne peut rien faire. Les hommes vont s'épanouir sur la terre, les nations, les peuples vont s'épanouir pendant ces 1000 ans. Et comment Dieu peut-il, eh bien finalement, eh bien le libérer? Pourquoi? Je vais préciser une chose, c'est que l'état de vie durant 1000 ans aura été idyllique. On peut imaginer ce que veut dire ce mot, idyllique en tout point. Mais Satan, revenu, fournira à ce moment-là la preuve que l'humanité d'alors n'est pas pour autant convertie de cœur à Dieu. En quelque sorte, ce relâchement de Satan, de sa prison, sera encore un test, sera encore une suprême épreuve pour l'humanité, pour faire la démonstration que les hommes suivent Dieu. Ils vont faire le bien de Dieu, mais que dans leur cœur, le péché est toujours là. Vous savez, ce poison du début, ce poison de ce qui nous est annoncé dans Genèse chapitre 3, il n'a jamais été évacué. Il a été évacué que pour ceux qui ont cru que Jésus, eh bien, avait payé le prix. Mais pour tous les autres, pour tous les peuples, toutes les nations qui subsistent jusqu'à la fin du millénium, ils vont être dans un climat, dans un contexte, dans une atmosphère et une ambiance qui va faciliter le bien, la justice, toutes sortes de choses que l'on pourrait parler, que l'on pourrait donner comme qualificatif d'idéal et on a cité les noms il y a un instant. Mais néanmoins, au fond du cœur, eh bien, le péché est toujours là. Il n'y a que ceux, justement, que l'on appelle les rachetés, que l'on appelle les sauvés, que l'on appelle les croyants, les chrétiens, qui, eux, sont passés véritablement par, ce désempoisonnement du péché à travers Jésus-Christ. Mais les autres ne sont pas passés. Ils sont là, tout simplement. La nature est encore là. Et nous voyons que cette humanité ne s'est pas tournée résolument, volontairement, de cœur, en conscience, dans l'esprit, pour l'amour du bien, pour l'amour de ce qui est juste. Ils sont encore dans cet état. Et cette humanité, n'étant plus accoutumée, eh bien, au mal et au mensonge, va se laisser à nouveau séduire et tromper. Et ça nous renvoie dans Genèse chapitre 3. Au début et à la fin. C'est assez surprenant. C'est assez déconcertant. On est désorienté d'une telle chose. Et pourtant, il faut le faire. Il faut que Dieu donne la preuve qu'il est Dieu. Qu'il est le Dieu créateur. Qu'il est le Dieu rédempteur. Qu'il est le Dieu qui respecte la liberté de ses créatures. C'est pourquoi les choses se passent de cette manière. Et nous voyons que le diable, tout à nouveau, déguisé comme la première fois, peut-être pas en serpent, je ne sais pas, mais il va se déguiser en ange de lumière et il va séduire les hommes, écoutez la suite, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, c'est-à-dire le nord au-dessus d'Israël, afin de les rassembler pour la guerre, parce que le but c'est ça, c'est la mort, leur nombre est comme le sable de la mer. Et il va y avoir un ultime envoûtement à ce moment-là, lorsqu'il va sortir de l'abîme, et cet envoûtement va s'exercer sur les nations, et celles-ci, moutonnières, croyant davantage encore à la puissance du mensonge qu'à la vérité, eh bien elles vont être entraînées à nouveau à s'opposer une dernière fois à Dieu et à ceux qui adorent Dieu et qui le servent. Et là, à ce moment-là, Satan semble avoir réussi à détourner l'humanité dans le mal. Mais il a cru. Ça semble une réussite, comme à chaque fois, comme au moment de la naissance de Moïse, comme au moment du sacrifice d'Isaac sur le mont Morija, comme au moment où Jésus a expiré à Golgotha. Mais à chaque fois, et Dieu avait la réponse à tout cela. Et il semblerait que dans cette ultime séduction du monde d'alors, au terme du millénium, eh bien, il semble réussir. Et il nous est dit que tous ces hommes, cette humanité d'alors, elle nous est présentée comme un nombre qui est comme le sable sur le bord de la mer. Imaginez-vous. On n'en est pas là, nous. Nous, les choses ne sont pas faites. Mais imaginez-vous dans la perspective de ce monde qui va venir, de ce temps qui va venir, le monde entier va être emporté encore par la même séduction. Et je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai souligné parce que son cœur n'est pas finalement, acquis pour Dieu. Aussi nombreux que le sable de la mer, et cela pour la guerre, pour que les hommes meurent, parce qu'il est le prince de la mort. Il est le prince de ténèbres. Et le diable est perdu, mais il ne veut pas être perdu tout seul. Il veut entraîner cette humanité que Dieu a créée. Alors voilà quelques explications de ce que sera le millénium. Ce sera une période de l'histoire humaine pendant laquelle Christ, après son retour, ce que l'on appelle la parousie, on a parlé de son premier retour, On a parlé de son second retour, mais en deux phases. La première phase, vous en souviendrez, c'est l'enlèvement de l'Église, donc nous, on n'est plus là. Hein. Deuxième phase, c'est la parousie, c'est celle dont je suis en train de parler actuellement, pendant laquelle Christ, après son retour, régnera pour la justice et qui va apporter à cette terre pendant le millénium la paix. Ce sera un royaume glorieux, visible sur notre terre. Ce ne sera pas des idées, ce ne sera pas de la science-fiction, ce sera une réalité. Et ce règne, ce royaume s'étendra sur toute chose. Les élus que nous sommes, nous avons déjà été enlevés depuis bien longtemps, hein. Nous sommes avec Christ et nous régnons avec Christ, les élus régneront avec le roi sauveur sur la terre, dans le ciel. Mais nous serons dans le ciel. Mais notre régence, en quelque sorte, sera sur les nations et les peuples qui seront sur la terre. Alors, à ce moment-là, au terme de cette expérience, eh bien, il y aura de nouveaux cieux, une nouvelle terre, qui seront recréés. Apocalypse, chapitre 5, et il nous est présenté justement cette nouvelle terre que nous verrons la fois prochaine. Chapitre 5, verset 10, il nous est simplement dit « Et il chantait un cantique nouveau, verset 9, en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. » Verset 10, hein, j'ai lu un petit peu plus tôt. « Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Nous serons avec Christ dans le ciel, mais nous régnerons sur la terre, et nous régnerons sur les peuples et les nations. Est-ce que cela peut quelquefois nous interpeller lorsqu'à un moment donné, Jésus nous donne cette petite parabole? J'y ai pensé, je ne veux pas arrêter définitivement cette chose, mais je voudrais quand même vous dire que quand il nous est dit qu'à l'un il est donné 10 talents, à l'autre 5 et à un autre 1, qui n'en fait rien, mais en tous les cas celui qui en a reçu 5 et qui a véritablement fait son service convenablement, il nous est dit bien voilà, le maître te donnera de régner sur 5 villes, sur 10 villes, etc., etc. Et je crois que ça sera véritablement peut-être la réalisation de ce que nous pouvons comprendre de cette parabole. Au chapitre 20 et au verset 5-6, bon, nous l'avons lu tout à l'heure, hein, tout simplement, il nous est dit que eh bien, les autres morts ne sont pas revenus à la vie, mais que nous allons finalement eh bien, régner avec Christ. Je passe très rapidement. Maintenant, je voudrais aborder trois théories s'affrontant autour de la question du millénium. Quand et comment? Alors, il y a trois catégories, trois courants de pensée. Il y a ce que l'on appelle les post-millénaristes. Les post-millénaristes, hein, c'est un mot un petit peu compliqué, qui enseignent que la première venue de Jésus-Christ, depuis la première venue de Jésus-Christ, pardon, puis les conquêtes de l'Évangile à travers le christianisme qui a été répandu sur la terre, ont si bien conquis le monde que finalement le monde est converti et que quand Jésus va revenir, il va trouver un monde converti. Ça, c'est la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, à travers ce monde politique, ce monde économique, ce monde religieux qui croit à l'âge d'or. Vous comprenez ? Et si nous regardons par rapport au siècle passé, on se dit, mais il n'y a que de prouesses, que de développement de la science, de la médecine, etc., etc. Et ça, c'est tout simplement, eh bien, une philosophie qui nous fait penser que ces gens enseignent que cette première venue de Jésus, c'est-à-dire Jésus, quand il est venu sur la terre, mourir pour les hommes, et que le christianisme s'est répandu dans toute la terre. C'est vrai que le christianisme a été quand même jusqu'aux extrémités du monde. Et que le monde a fait des progrès, que le monde a fait toutes sortes de choses, et que, quelque part, ce monde va rentrer dans l'âge d'or à un moment donné. On va finir par vaincre la mort, on va finir par vaincre la guerre, on va unir le monde entier avec toutes ces théories que nous connaissons aujourd'hui, la mondialisation, une monnaie unique, etc., hein, que ce sera véritablement, eh bien, là, un monde uni, en quelque sorte, ce qu'on appelle l'âge d'or. Mais ça, c'est une vision idéaliste et une vision humaniste, qui n'a rien à faire. On les appelle les post-millénaristes. Alors, le Seigneur n'aura plus qu'à revenir pour régner sur un monde qui sera déjà tout préparé, sur une humanité quasi convertie. Cette pensée est une illusion. Et si nous suivons la pensée du monde d'aujourd'hui, eh bien, nous tombons dans cela. Nous pouvons dire, mais finalement, ça va aller de mieux en mieux. Ça va aller de mieux en mieux. Or, on constate que la corruption va croissante et que le monde va de mal en pis. Ça, c'est une conception. C'est faux. Il y a également un deuxième courant de pensée, ce sont les amillénaristes. Alors, je vais vous expliquer. Lesquels affirment que l'homme n'a pas à attendre un règne visible de Christ. Toutes les promesses de la Bible concernent le règne de Dieu seulement dans un sens symbolique uniquement. C'est une vue de l'esprit. C'est-à-dire que le Seigneur, finalement, eh bien là, tout ça, c'est du rêve, tout simplement. C'est du rêve. Et puis, il y a les pré-millénaristes que nous sommes. Et vous allez comprendre pourquoi. Les croyants de la Bible sont des pré-millénaristes. Les pré-millénaristes admettent que Jésus-Christ doit revenir avant le millénium. D'accord ? Il revient avant le millénium. Il est évident que l'humanité a fait faillite en rejetant Dieu. Tous les systèmes érigés par l'homme dans la succession des siècles, en politique, sociale, économique ou religieux, ne sont jamais parvenus à apporter au monde la paix et le bonheur. Ce que les premiers pensent et ce que les premiers s'attellent ou s'attachent à faire, à réaliser par eux-mêmes, c'est de l'humanisme tout simplement. Or, la seule et véritable espérance qui soit, c'est l'instauration du royaume de Dieu. Sa venue seulement apportera et accomplira le plan de Dieu qui a été mis en échec en Éden, autrefois, par la faute originelle de l'homme. Donc, il faut tout reprendre. Et il n'y a que la solution de la rédemption en Jésus-Christ qui peut apporter, finalement, eh bien, la réponse. Simplement. Le Seigneur, à ce moment-là, relèvera le défi en jugeant les impies, on l'a vu, rachetant ses fidèles par la foi, et fera de la terre durant 1000 ans un paradis. Un paradis terrestre, comme le premier, si vous voulez. Mais avec quelques particularités que nous allons voir maintenant. Il n'y aura pas le péché, enfin, il sera dans le cœur de l'homme. Mais il ne sera pas comme nous le connaissons aujourd'hui, dans cette dispensation qui nous amène du jardin d'Éden jusqu'à notre temps, jusqu'à maintenant. Israël d'abord, puis la véritable Église, régnera dans ce nouveau monde un temps, dans l'attente d'une nouvelle dimension, mais celle-ci sera totalement spirituelle lorsqu'il y aura une nouvelle terre et des nouveaux cieux. C'est compliqué. Compliqué. Et ça se fera dans le ciel. J'aimerais brièvement rappeler les caractéristiques du millénium, c'est intéressant, vous allez voir. D'abord, je l'ai dit et je le répète, c'est un événement déterminant. Satan est rendu impuissant, il est lié. Et il n'y aura plus de tentation, encore moins de séduction pendant le millénium. Je l'ai dit, je le répète. Il y aura le triage après le jugement préliminaire. Les rachetés règnent avec Christ parce qu'ils ont part à la première résurrection. 1000 ans de règne sur terre. Et ce n'est pas pour rien que l'expression 1000 ans est répétée 6 fois dans le chapitre 20. Nous arrivons à des choses beaucoup plus concrètes. La paix est établie ici-bas parmi les nations. Jérusalem sera la capitale du monde à ce moment-là. Oui. Aujourd'hui, on va en faire une capitale mondiale, capitale internationale, ce que les Juifs refusent absolument. Jérusalem, c'est la capitale d'Israël, c'est tout. Hein. Et c'est les grands débats, hein. C'est le grand enjeu finalement de la guerre ou de la paix en ce moment. Hein. Mais à ce moment-là, pendant le millénium, ce sera Jérusalem qui sera la capitale du monde. Et nous allons voir ça maintenant avec quelques versets bibliques. Je voudrais pas trop m'attarder, mais c'est quand même assez intéressant de les prendre en considération, pour la bonne raison que ce sont des choses qui, quelquefois, nous les avons sous les yeux, mais dit dans un contexte particulier, ça peut nous aider à comprendre. Écoutez, dans le livre du prophète Ésaïe, parce que c'est véritablement là où nous trouvons le plus de ressources, la paix et Jérusalem, capitale du monde. Écoutez bien, chapitre 2. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Les nations se rendront à Jérusalem. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples, de leurs glaives, et vous connaissez, ils forgeront des hoyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. » Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Nous avons un autre texte qui étaye justement cette proposition de capitale du monde et de cette paix. Au chapitre 9, voilà, au chapitre 9, verset 6, il va y avoir une petite recherche à faire. Celui qui règnera, c'est-à-dire Christ, il nous est dit qu'on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix, donné à l'empire de l'accroissement, sera un empire mondial à toute la terre. Et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Ça, c'est le millénaire. On l'appelle également le régime messianique, où règne de justice et d'égalité entre les hommes. Alors on continue dans notre recherche, et Ésaïe chapitre 11, versets 1 à 9, c'est très évident. « Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jurera point sur l'apparence, il ne prononcera point de oui-dire sur un oui-dire. » Mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. On en reparlera d'ici quelques instants. La justice sera la ceinture à ses flancs, et la fidélité la ceinture à ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra la main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera emplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Ésaïe sera là, comme une bannière pour les peuples, et les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Le Seigneur dans le millénium sera présent en permanence. La longévité de la vie sera exceptionnelle et dans une prospérité inouïe. Ésaïe nous en parle au chapitre 65 de son livre. Et il souligne la prospérité, versets 18 à 25, où il est donné cette parole. « Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards. » qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront, ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite, ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. » Ça sera le bonheur de vivre pendant le millénium, pour tous. Ce bonheur, il nous est exprimé au chapitre 30, toujours d'Ésaïe, chapitre 30 et au verset 23-25. Alors il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre, et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. En ce même temps, tes troupeaux paîtront sur de vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui labourent la terre mangeront un fourrage salé qu'on aura vanné avec la pelle et le vent. Il n'y aura plus rien à redouter. Fini la peur, les angoisses, les terreurs, l'épouvante. La nature sera apaisée. Les animaux ne constitueront plus un danger pour les hommes. Ésaïe, chapitre 32, verset 16-18. C'est encore cela ce qui nous est parlé. Alors la droiture habitera dans le désert et la justice aura sa demeure dans le verger. L'œuvre de la justice sera la paix et le fruit de la justice le repos et la sécurité pour toujours. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres, dans des asiles tranquilles. C'est encore l'affirmation qui nous est donnée. La mission spirituelle et morale des croyants glorifiés sera réalisée. Ésaïe chapitre 4. Il y a tellement de choses à dire. Chapitre 4, verset 2 à 3. En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les rescapés d'Israël. Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants, après que le Seigneur aura lavé les ordures de la fille de Sion et puis tout le reste. Oui, la mission morale et spirituelle sera accomplie. Toutes les nations seront bénies dans cette nouvelle société humaine au nom de Dieu. Israël, converti, sera missionnaire auprès des peuples pour leur annoncer la gloire de Dieu. Alors, on viendra à Jérusalem pour contempler la gloire de Dieu et pour s'attacher à lui. Ce que nous dit Zacharie, chapitre 4. Le prophète Zacharie nous laisse, c'est l'avant-dernière citation, chapitre 2, 10-12. Il est dit, « Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens, j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte et il choisira encore Jérusalem. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. » Et puis Jérémie, pour terminer. Le prophète Jérémie nous en parle également de cette gloire où les nations monteront à Jérusalem. 3:17, à travers simplement ce verset. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel et elles ne sauveront plus les penchants de leur mauvais cœur. Et puis il y a la suite à lire si vous voulez. Alors, on en est là. Le millénium, les caractéristiques, les particularités du millénium. Et je vais terminer sur la chose suivante. Cependant, le régime qui prévaudra dans le millénium ne sera pas la grâce, mais sera la loi. Oui. Nous vivons la grâce. Mais ça sera la loi. Et je vais vous expliquer pourquoi. Où la discipline à toute infraction sera exécutive immédiatement. Dans le livre de l'Apocalypse, au verset 19 et au chapitre 19 et au verset 15, il nous est dit ceci, « De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, il les pétera avec une verge de fer. » Oui, il les pétera avec une verge de fer. N'allons pas nous imaginer que ce sera, c'est vrai, un monde tout à fait particulier, que nous ne connaissons pas, nous. Mais toujours est-il que ce sera une règle de fer. Ce sera certainement quelque chose qui pourrait nous étonner. Donc, il n'y aura plus de tolérance pour le mal dans le millénium. Vous savez, le Seigneur nous fait miséricorde tous les jours. Mais dans le millénium, ce ne sera pas du tout la même chose. Et le pécheur mourra frappé sur le champ, car il agira en toute connaissance de cause, la main levée. Ce sera la différence. Peut-être que ce qui va retenir les peuples et les nations, c'est la crainte. Si c'est encore la crainte qui agit, c'est une chose. Mais si les frontières sont passées, à ce moment-là, eh bien, il y aura un jugement immédiat. On n'est pas dans ce régime, hein, parce qu'il n'y aurait plus grand monde sur la terre. Hein. Il n'y aurait pas grand monde qui subsisterait. Et puis, un nouveau paradis terrestre, aux conditions idéales, c'est le millénium. Mais le millénium se terminera par un dernier et ultime choix de l'humanité, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure précédemment, quand Satan va être délié. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans le chapitre 20, au verset 7 à 9. La conclusion de cette étude est la suivante. Un royaume messianique, béni, mais arbitraire, avec un régime légal, on le sait. Dans ces conditions, les hommes se laissent encore tenter. Ils vont se laisser séduire et entraîner par Satan, qui sort de sa prison. Le choix que les hommes vont faire, c'est un choix en connaissance de cause et en connaissance de conséquences. Ils savent. Nous, il y a beaucoup d'ignorance. Les hommes autour de nous, les chrétiens, nous, un peu moins, mais dans cette humanité, il y a beaucoup d'ignorance, bien que la conscience soit là pour nous dire ce qui est bien et ce qui est mal. Mais à ce moment-là, ça sera quand même différent. On s'aperçoit que tout cela va révéler ultimement que malgré les conditions extraordinaires et favorables au bonheur et à la vie, je l'ai dit et je le répète, le cœur des hommes était et demeure mauvais pécheur. Il demeure révolté, il demeure incrédule, il demeure orgueilleux, il demeure méchant, il demeure réfractaire à la foi, au salut, à la vérité, au projet éternel de Dieu de partager sa gloire et son éternité. Alors, c'est à ce moment-là qu'il va survenir le jugement dernier. Ceux qui sont en attente, vous savez, après la bataille de Mergadon, plus les nations qui ont suivi à ce moment-là Satan pour se laisser séduire. Et tout cela, après le jugement dernier, que l'on appelle le jugement final, ça sera terminé. Celui-ci sera suivi par la création d'une nouvelle terre et de nouveaux cieux, et c'est ce que nous verrons la fois prochaine à travers le chapitre 21 et le chapitre 22. Assurément, c'est pas toujours facile à comprendre. Mais néanmoins, ça vous donne une perspective et pris dans tout un ensemble. J'essaierai dans la dernière étude que nous ferons de donner... Parce que l'Apocalypse, la grande difficulté, c'est que c'est à la fois une conception chronologique centrique. C'est-à-dire que c'est à la fois dans le temps, et puis ce sont des choses qui se répètent. Comprenez? En allant, en augmentant, en s'amplifiant dans le mal, jusqu'au moment où la coupe elle est pleine et ça déborde. Alors c'est ça justement, et c'est de pouvoir placer un petit peu les événements qui existent depuis à l'état embryonnaire et qui se développent et qui à un moment donné eh bien vont amener finalement eh bien à ce jugement dernier des hommes, ce jugement de Dieu sur les hommes. Et Dieu, à ce moment-là, va faire comme il a fait dans le livre de la Genèse, chapitre 1er, verset 1er, où il nous est dit que Dieu a créé le ciel et la terre, et là il va créer une nouvelle terre, et des nouveaux cieux, et c'est l'éternité. Mais nous, notre condition d'homme, il y a longtemps qu'elle aura disparu. Les choses seront emportées bien loin, mais notre salut, nous le devons, et je le répète, et je conclue sur ça, tout simplement à notre foi en Jésus-Christ, simplement. Alors que Dieu nous aide, on va prier, on va conclure simplement par la prière, et demander à Dieu qu'il nous aide et on comprendra certainement mieux les choses dans une autre dimension. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que croyons, Père éternel, que tout cela, eh bien, en effet, provoque nous pousse à la réflexion, à une intelligence qui ne doit pas être seulement une intelligence humaine. Mais Seigneur, nous nous reconnaissons tellement petits. Nous sommes si insignifiants, Seigneur, devant ce plan cosmique, ce plan universel, ce plan éternel de Dieu en Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, mais si nous pouvons retenir que quelques petites choses ce soir, c'est que nous savons, Seigneur, qu'en effet, eh bien, tu à préparer, Seigneur, encore. Là, eh bien, une épreuve particulière pour tester le cœur de l'homme. Ça ne concerne plus l'Église, ça ne concernait pas les rachetés, mais ça concerne encore cette humanité qui va être placée dans des conditions exceptionnelles, dans des conditions de bonheur, dans des conditions de vie, dans des conditions de prospérité, dans des conditions de longévité, dans des conditions de justice, dans des conditions, en effet, d'égalité des hommes. Et malgré cela, malgré tout ce que tu vas pouvoir faire pour bénir, comme nous l'avons vu, où il n'y aura plus de danger, où il n'y aura plus de menace, eh bien néanmoins, en effet, la preuve sera faite que le cœur de l'homme, s'il n'est pas converti, s'il n'est pas acquis pour Dieu, s'il ne s'est pas donné à Dieu, reste encore un cœur humain, un cœur pécheur et un cœur perdu, un homme perdu, une humanité perdue. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que si tout cela nous est dévoilé, c'est pour montrer qu'il y a successivement différentes étapes et que, en effet, lorsque nous prions, lorsque nous lisons ta parole et lorsque nous chantons nos hymnes d'espérance, nous ne parlons pas du millénium, nous parlons de ce qui viendra après le millénium, c'est-à-dire de cette nouvelle Jérusalem qui descend du ciel et de la grâce qui nous est faite dans une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Oui, Seigneur, nous croyons que dans le firmament, il y a de la place, que tu es le créateur de tout cela et cela, Seigneur, dépasse notre compréhension. Oui, Seigneur, comment pouvons-nous nous imaginer de telles choses? Et Seigneur, tu nous as donné déjà, tu as levé le coin du voile pour que nous puissions nous réjouir dans, Seigneur, cette vie sur une terre qui est une terre de misère, une terre de guerre, une terre de mort. Eh bien, Seigneur, tu nous montres que tu as préparé tout le contraire dans cette éternité, dans cette félicité, parce que c'est le mot qui convient, cette félicité éternelle dans ta présence. Et nous te bénissons et nous te remercions. Merci pour la part des chrétiens, parce que nous régnons déjà avec Christ. Merci parce que nous sommes assis dans les lieux célestes. Merci, Seigneur, parce que notre espérance, elle est dans celui, uniquement dans celui qui est mort à notre place, et de sa vie, de sa mort, eh bien nous avons en effet la vie et la vie éternelle. Merci, Jésus. Amen.